Chapitre 14. Ferdine son rôle. Il n'était bruit d'autre chose dans le village. Quand Louise vint, comme à l'ordinaire, passer avec son amie l'heure de la sieste, elle avait déjà appris, d'une bonne femme rencontrée dans la rue, la tragique nouvelle, et sa consternation dépassait même celle de Ferdine. Louise se jeta sur un siège et resta longtemps sans rien dire, accablée, tandis que Ferdine préparait dans sa petite cafetière russe la tasse de café noir qui était leur luxe quotidien. « Grand-maman et moi, nous ferons quelque chose pour les enfants, » soupira-t-elle enfin. « Mais cela n'empêchera pas ces pauvres petits d'être privés de leur mère pour longtemps, et ils ont été les témoins d'une scène affreuse qui laissera dans leur mémoire des traces ineffaçables. Combien je me reproche de ne pas avoir été plus prudente. Il y avait 100 moyens de venir en aide à la veuve Roux sans exciter la jalousie et la brutalité de son beau-père. » Elle était si troublée, si pleine de regrets et de chagrin, qu'elle écouta mal le récit de la brève visite de Siméon et que sa sympathie fut pour la première fois envers Ferdine, vague et distraite. Même la perspective d'aller tout à l'heure écrire sous la dictée de Mademoiselle Nel des descriptions de charmilles ducales et de cérémonies de cour, cette perspective lui devenait indifférente. Jamais je n'aurai le courage de raconter cette triste affaire à grand-maman. Elle en sera bouleversée. Elle versera des larmes pendant 15 jours. Viens à mon aide, Ferdine, je t'en prie. À 6 heures, quand tu sortiras du bureau, monte à Château Pointu. Je tâcherai de renvoyer jusqu'alors le moment difficile. » Ferdine y consentit aussitôt. C'était elle qui avait poussé Louise à faire une révolution, et il n'était que juste qu'elle prît sa part des complications qui en résultaient. Cependant, Madame Miserlet fut impressionnée par l'événement, tout autrement qu'on ne l'eût prévu. Elle s'indigna fort de la conduite de Jonas Roux, regrettant de ne pas l'avoir connu plus tôt comme un affreux drôle, un vilain flagorneur qui la comblait de mielleuses politesses quand elle descendait au village. Elle embrassa les deux jeunes filles avec effusion et les remercia d'avoir fait une enquête d'où la lumière avait jailli. Ensuite, elle les pria de se charger à l'avenir de toutes ses charités. « Je ne me mêlerai plus de rien, » conclut Madame Miserlet, s'enfonçant plus profondément dans son grand fauteuil gothique au coussin de moire broché or et vert. « Je vivrai exclusivement avec mes souvenirs. Vous qui êtes la jeunesse, vous descendrez dans la lice de la réalité. Je sais Louise compatissante et généreuse, elle ne déméritera pas de ma famille qui a de tout temps répandu beaucoup de bienfaits sur ce pays. » Et vraiment, dans cette vaste pièce ronde dont les maçonneries épaisses étaient cachées par des verdures d'Arras et des draperies d'antique Damas, au milieu de ces meubles d'un luxe suranné, près de la profonde fenêtre à meneaux sculptés, d'où le jour tombait sur la table massive, couverte de cassettes curieuses, de miniatures de famille, d'un miroir en main encadré d'ivoire fouillé comme une dentelle, d'une bonbonnière en vieil émail de Limoges et de livres de poésie, Madame Miserlet, coiffée de ses beaux cheveux blancs et d'anciennes guipures, était bien la dernière personne du monde qu'on eût préposée à l'organisation rationnelle et moderne de la charité, dans un petit village à demi industriel, aux alentours d'une fabrique de chapeaux de paille. Cela s'est passé bien mieux que je ne l'espérais, murmura Louise en accompagnant son amie qui redescendait au village et refusait toute escorte. Au fond, grand-maman a plutôt l'air soulagée. Et tu vois qu'elle nous donne carte blanche en ce qui concerne les enfants roux. Je me défie de l'argent, répondit Ferdine. Vois quel mal il a déjà fait. Nous en userons le moins possible et nous le remplacerons par de la bonne volonté. Du reste, j'imagine que les bonnes femmes du village, qui ne sont pas riches mais qui s'entraident, ont déjà pourvu à tout. Le crépuscule était clair encore, bien qu'il fût près de 9 heures. Ferdine marchait rapidement et elle avait atteint le bas de la descente aux nombreux zigzags quand elle entendit un bruit de petits pas trébuchants et de sanglots. En même temps, elle apercevait sur le chemin blanc, entre les prés obscurs, une ombre toute petite qui courait, s'arrêtait, puis repartait. Elle courut elle-même à la rencontre de cette forme d'enfant qui semblait une âme en peine. Elle étendit les bras pour l'arrêter. Alors, en se penchant, elle vit un garçonnet tout mignon, 5 ans à peine, vêtu sommairement de sa chemise et d'une petite culotte mal attachée. « Où vas-tu ainsi, petiot? T'es-tu sauvé ?» demanda Ferdine, s'agenouillant à côté de l'enfant pour distinguer son visage et retenant solidement sa petite main, car il se débattait, nullement enclin à se laisser capturer. D'abord, il refusa de répondre, mais la demoiselle parlait si doucement qu'il s'apprivoisa un peu. « Je vais chercher maman !» déclara-t-il d'un petit ton net et décidé. « Où est-elle, ta maman ?»«
Je ne sais pas. Elle avait bobo, elle est partie. »«
Comment t'appelles-tu, mignon ?»«
Jean-Jean. »
« Et ta maman ?»«
Elle s'appelle la maman au petit roux. »«
Pauvre chérie !» s'écria Ferdine, l'entourant de ses bras. « Je le sais bien, moi, où est ta maman, mais c'est trop loin, vois-tu, pour tes petits pieds. C'est une belle maison très grande où l'on soigne les personnes qui ont bobo. On les couche dans de beaux lits blancs et on leur donne de la tisane sucrée. Mais on n'ouvrirait pas la porte à Jean-Jean parce qu'il fait nuit. Si tu es bien sage, mon mignon, je te conduirai moi-même, un de ces jours, voir ta maman dans son beau lit où tu pourras l'embrasser.
« Vrai ?» dit le petit, dont la menotte se tint dès lors tranquille dans la main de Ferdine.
Maintenant, le plus pressé est de retourner chez nous, dans notre petit lit, comme un grand garçon bien sage, et de dormir tout de suite pour faire venir demain matin plus vite, continua Ferdine, entraînant l'enfant dans la direction du village. Il se laissa faire assez docilement, car aussitôt que la peur des grands arbres noirs et le désir de dire bonsoir à sa maman ne le tinrent plus excité, un sommeil subit s'abattit sur ses yeux. Ses petits pieds oublièrent même bientôt leur service, et Jean-Jean devenait lourd à remorquer lorsqu'à l'entrée du village, sous les derniers frênes, une fillette se précipita à leur rencontre.
« Méchant Jean-Jean » cria-t-elle, « pourquoi t'es-tu sauvé ?»
« Il dort à moitié, » dit Ferdine. « Ne le gronde pas, il se réveillerait, et alors il pleurera. Je vais le porter jusque chez vous. » Elle prit le bambin dans ses bras et suivit la fillette à travers des passages obscurs, sous des avant-toits à l'ombre épaisse et des branches d'arbres fruitiers étendues au-dessus des ruelles, jusqu'à la cambuse de Jonas Roux. Elle entra. 4 gamins en chemise s'éparpillèrent à son apparition comme des souris blanches dans les coins et sous les meubles.
« Voyez les polissons !» s'écria la fillette raisonnable, l'aînée, qui ne les avait quittés une minute que pour courir à la recherche du petit frère. « Je les avais tous mis au lit et les voilà en l'air. Je le dirai au grand-père, mauvais garnement, je le lui dirai !»
Rien ne bougeait sous la table, ni derrière l'armoire. On n'entendait même pas de rires étouffés, car les pauvres petits roux, au régime de leur grand-père, n'avaient guère appris à se cacher pour le plaisir de rire. Ferdine, bien qu'un peu novice, déshabilla Jean-Jean, puis, d'une voix qu'elle s'efforça de faire pleine d'autorité, appela les souris fuyardes qui vinrent l'une après l'autre, craintivement, lui montrer leurs petits museaux, et puis se sauvèrent au lit. La chambre était grande, misérablement meublée, mais très propre. 4 des petits nichaient ensemble, comme 4 oisillons, 4 petites alouettes, dans une couchette très basse sur le plancher. Mathilde, la grande sœur de 8 ans, dormait avec la cadette dans un vieux lit vermoulu, qu'elle appelait respectueusement le grand lit. C'était le lit de la mère avant qu'elle les quittât. Elle reposait, le bébé à côté d'elle, sur les oreillers, à la tête, tandis que Mathilde s'arrangeait comme elle pouvait, au pied ou en travers. Mais à présent, dans sa dignité nouvelle de petite maman, elle comptait bien dormir sur les oreillers. Elle conta tout cela à Ferdine quand on n'entendit plus dans la couchette que ses douces respirations régulières d'enfants heureux, au moins quand ils dorment. Elle lui expliqua la situation avec des mots résignés, comme d'une petite fille déjà accoutumée à la malchance. Elle parlait exactement comme l'eût fait sa mère. Elle dit que pour le lait, il n'y avait pas à s'inquiéter car la chèvre était très bonne et le garçon à Madame Gauthier avait promis de venir tous les soirs lui faire sa paille et la traire. Mathilde s'excusa de ne point encore savoir traire à son âge.
Et puis, Madame Bardet et Madame Chaume, dès qu'ils ont un gros train, recevraient chacune 3 des enfants tous les jours pour le dîner. Mademoiselle Menton, la couturière, s'était engagée à les surveiller et à les punir s'ils profitaient de l'absence de leur maman pour faire les cols buissonnières.
Comme ça, tout ira bien pendant le jour, poursuivait Mathilde, dont la petite figure chétive se plissait comme celle d'une vieille femme.
Ce qui me fait souci, c'est le soir. Ils s'ennuient de maman, ils pleurent et ne veulent pas m'obéir. Quand je me suis aperçue que Jean-Jean s'était sauvé, j'ai voulu courir après lui tout de suite, mais il se pendait à moi. Ils disaient qu'ils avaient peur. Je ne suis pas encore assez grande pour les claquer. Georges serait plus fort que moi et c'est lui qui me claquerait, acheva-t-elle avec un gros soupir.
« Sais-tu, dit Ferdine, je viendrai t'aider, le soir, jusqu'à ce que ta maman soit guérie. Les voisines sont trop occupées, mais moi, j'ai du temps. »«
Ça me ferait bien service, dit la petite simplement. »